Jusqu'à 10h, vous écoutez Que l'Outaouais se lève avec Michel Langevin.
Nous sommes de retour, il est 7h28 avec M. André Fortin, le député libéral de Pontiac, porte-parole officiel en matière de santé à Québec. Bonjour M. Fortin.
Bonjour M. Langevin.
Vous n'êtes pas inondé, vous, toujours?
Non, moi, j'ai la chance de pas être un citoyen riverain, là, mais je dois vous dire, j'ai écouté la série d'entrevues que vous avez eue la semaine dernière, tant avec des résidents qu'avec les porte-parole d'Hydro-Québec. Là, puis ce dossier-là, c'en est un qui puis je suis pas un expert là-dedans, là, mais c'est un dossier qui est immensément humain. Là. Dans les inondations depuis 2017, nous, on a vu des centaines et des centaines de citoyens faire des sacs de sable pour protéger leur résidence. On a vu des gens pleurer dans notre bureau parce qu'ils avaient tout perdu. Des mois, des années de stress pour essayer de comprendre la suite des choses. On a vu des programmes du gouvernement mal adaptés. Puis ça, c'est un stress qui est là pendant la période des inondations, là, mais c'est un stress qui s'accumule à chaque fois qu'il y a une prévision de pluie, à chaque fois qu'il y a de la pluie qui dure des mois et des mois. Les gens regardent le niveau de l'eau à l'automne, à l'hiver, au printemps. Donc, je vous dirais qu'Hydro-Québec et ses partenaires gagneraient à être pas mal plus transparents avec ces gens-là qui ont un stress immense.
Parce que c'est ça qui se passe actuellement. Il y a des gens, sans dire qu'ils s'y connaissent, en tout cas, qui, à force de regarder, comprennent certaines données, certains tableaux, voient des tendances, et puis les actions d'Hydro-Québec, puis là, ben remettre en question la façon de faire au niveau de la gestion des barrages. Puis là, ben, vous n'êtes pas expert, je ne le suis pas non plus, mais je vois les mêmes choses que vous. Puis j'ai plein de questions, mais Hydro-Québec semble dire que non, tout est correct. On baisse les niveaux des réservoirs. Puis la station là, à Carillon, c'est filaire. Ça, là, on ne peut pas retenir de l'eau plus que ça. Je comprends pas. T'sais, on ne peut pas ouvrir plus que ça. Je comprends mal comment ça marche vraiment. Fait que je comprends vos préoccupations. J'imagine que vous avez aussi posé plus de questions que moi là-dessus, évidemment, pour essayer de comprendre un peu mieux.
Ben oui, à travers des canaux plus formels comme certaines commissions parlementaires et la MRC du Pontiac chez nous, là, comme M. Boisvert l'a indiqué la semaine dernière, a essayé d'avoir des groupes de travail avec tous ces partenaires-là pour comprendre. Mais je vous dirais que des entrevues comme celles que vous avez menées avec Hydro-Québec, là, c'est frustrant pour les citoyens parce qu'on se fait dire qu'il y a des citoyens qui interprètent mal les données, qui s'accrochent à quelques inexactes. On s'accroche à quelques inexactitudes, justement, comme l'enjeu de Carillon. On dit essentiellement, ben, il n'y a pas grand-chose de plus à faire. Moi, j'écoute les résidents, puis ils disent pas que c'est 100% de la faute d'Hydro. Là. Ils savent qu'il y a de la pluie là-dedans, il y a de la fonte là-dedans, il y a des événements climatiques extrêmes, mais ils demandent à ce qu'Hydro fasse 100%, Hydro et OPG et les partenaires fédéraux, là, fassent 100% de ce qui est en leur pouvoir pour s'assurer que les résidents ne s'inondent pas. Puis ça, c'est de la transparence de base, de mettre de l'avant le plan de gestion des eaux puis pas se cacher derrière de la réglementation qui dit qu'on n'est pas obligé de le faire. Quand les porte-parole d'Hydro nous disent on ferme certaines vannes, est-ce qu'on peut savoir c'est quoi qui ouvre, pourquoi il ouvre un certain pourcentage? On nous dit d'un côté, on n'a pas besoin d'hydroélectricité de l'Outaouais, on a d'autres secteurs qu'on peut utiliser en ce moment, mais alors pourquoi on ouvre des vannes? Tout ça fait une différence, puis ça vient jouer dans la tête des gens qui se lèvent à tous les matins puis qui regardent « Hey, l'eau s'est approchée ou s'est éloignée de la maison. »
Je connais des gens, moi, qui ont pensé au suicide en raison des inondations, M. Fortin. Il y a du monde qui en pouvait plus, qui ont tout perdu, leur fonds de pension, leur maison, leur investissement, parce que, tu sais, puis là, ils entendent Hydro-Québec dire « Ben, nous autres, on fait tout correct », mais ils entendent d'autres versions de personnes qui semblent dire « Ben non, on pourrait peut-être faire autrement puis beaucoup mieux. » Fait que, tu sais, c'est dur pour eux d'entendre ça, puis c'est pour ça que j'hésite toujours à donner la parole à des gens qui contestent la façon de faire d'Hydro-Québec, parce que je me dis, à chaque fois qu'ils sont en train d'avoir du bon sens, ce monde-là, radio, ça fait du mal à ceux qui ont été inondés, comprenez-vous?
Absolument, puis ces gens-là, je pense que ce qu'Hydro-Québec doit comprendre, c'est que chaque centimètre fait une différence pour eux. À chaque fois qu'ils voient le niveau monter, à chaque fois que les gens en parlent, puis ça en parle partout dans le village. Là, moi, je viens d'un village qui est en zone inondable, je viens de Couillon, puis c'est à peu près tout ce que le monde parle pendant quelques mois par année. Là. Mm. Puis quand on en parle, c'est parce qu'il y a un stress un peu partout autour de nous. Puis oui, il y a la question d'Hydro-Québec, mais il y a aussi la question du gouvernement là-dedans. Là, on est en train de mener une consultation sur des zones inondables sans dire aux gens c'est quoi les zones inondables. Donc là, on mène des consultations pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que les gens se posent des questions, est-ce que ma maison va encore être assurable? Est-ce que ma maison va perdre sa valeur? Mais là, on étudie la réglementation sans même savoir qui est affecté et qui n'est pas affecté. Ça donne l'impression aux gens. Puis je ne dis pas que c'est ça, mais ça donne l'impression que le gouvernement aime mieux juste vider les zones qui sont peut-être à risque, s'assurer qu'il n'y a pas personne qui habite là, plutôt que de faire un travail complet pour soit aider les gens qui se sont protégés, qui ont protégé leur résidence avec l'argent du gouvernement, ou encore en mettant tous les faits devant les gens puis s'assurer qu'ils puissent avoir une certaine défense. Quand on ne sait pas si on est affecté par de la réglementation, bien c'est rare qu'on va contester.
C'est tellement intéressant ce que vous dites ce matin, M. Fortin, du sentiment des gens, puis on les comprend. Il y a quelques années, lors des inondations, un spécialiste qui était venu m'expliquer à la radio que pour bien faire, là, il faudrait créer un autre bassin majeur de rétention. Il faudrait, mettons, là, laisser partir un territoire complet, là, tu sais, les maisons, les écoles, tout ça pour faire un autre réservoir pour éviter, pour être capable de bien gérer toujours l'eau en toute sécurité, en toute quiétude pour les autres, puis il y en avoir suffisamment pour produire de l'électricité. Mais évidemment qu'on ne peut pas faire ça. Fait que là, on est pris, puis ce qui se passe actuellement, j'ai l'impression, avec la nouvelle carte là, des zones inondables, bien, c'est comme vous le dites. Il y a des secteurs qu'on va être obligé de dire, bien, c'est ça. Puis ça va peut-être nous aider. On aura une marge de manœuvre là, quand il y aura des grosses neiges l'hiver puis des pluies abondantes puis qu'on aura besoin d'aller. Parce que votre voiture électrique, là, M. Fortin, il va falloir la charger, votre voiture électrique. Là. Puis nos voitures électriques, comprenez, ça va prendre beaucoup de courant, beaucoup d'électricité, sans compter nos amis du Sud à qui on vend ça bien, bien cher, de l'électricité pas mal plus cher qu'au Québec, fait qu'il faut l'exporter également. Fait que tout est là-dedans, là, j'ai l'impression. Ça nous donne l'impression, en tout cas.
Mais on en a besoin d'électricité. Là, on est encore au Québec à refuser projet après projet de développement économique parce qu'il n'y a pas d'électricité pour ces gens-là, parce qu'on n'en produit pas suffisamment, on n'en a pas suffisamment ici au Québec. Alors oui, il y a un enjeu d'accroître notre production, puis Hydro-Québec a un plan pour accroître la production qui on le comprend, est nécessaire. Mais en même temps, c'est un plan d'investissement à long terme, mais en même temps, là, on a un devoir collectivement comme gouvernement de s'assurer que les gens qui habitent le long des rives vivent pas ce stress-là au quotidien. Alors, c'est un équilibre qui est pas évident peut-être pour un gouvernement, mais quand on fait des consultations sans informer les gens qui vont être affectés ou non, quand on dit « Ah non, on peut rien faire de plus pour protéger les gens », je suis pas sûr qu'on contribue à diminuer le stress de ces gens-là. Au contraire, il me semble qu'on l'accentue. Alors, il y a une réflexion puis une humanité additionnelle, je vous dirais, à avoir de la part du gouvernement dans son ensemble dans ce dossier.
Bon, sur les pages Facebook des gens de votre coin dans le Pontiac en fin de semaine, on déplorait que les ingénieurs d'Hydro-Québec aient décrété la grève, puis eux, ils avaient su que samedi matin, ça a l'air qu'ils ne seraient pas au travail. C'est-tu vrai l'histoire ou si c'est pas vrai l'histoire?
Bien, il y a eu des votes de grève là, chez Hydro-Québec, je pense dans 7 des 9 secteurs de travail. Oui. Maintenant, à savoir les dates exactes, je peux pas vous dire que j'ai cette information-là ce matin, là, mais c'est certain que c'est un stress additionnel, puis il y en a beaucoup de grèves ces jours-ci là, au gouvernement du Québec. Il y a la grève des travailleurs en service de garde. Il y a la grève des ingénieurs qui s'en vient, qui ça aussi cause bien du stress pour bien du monde. Là, parce que ça veut dire qu'il y a un paquet de travaux routiers qui pourront peut-être pas avoir lieu dans les prochaines semaines, les prochains mois. La grève chez les travailleurs d'Hydro-Québec. Je comprends que le gouvernement a peut-être pas beaucoup d'argent ces jours-ci. Il a été décoté dernièrement. Il n'en est pas particulièrement fier. Mais j'encouragerais le gouvernement à aller de l'avant rapidement avec ces négociations-là. D'ailleurs, les dernières manifestations des travailleurs d'Hydro-Québec, là, c'était pour accélérer les travaux des négociations. C'est ça qu'ils demandent. Alors, moi, Est-ce qu'il en demande trop? Est-ce qu'il demande des conditions auxquelles Hydro-Québec ne pourra jamais répondre? Je ne sais pas. Mais leur revendication, leur demande à ce que les négociations s'accélèrent, ça tient la route, par exemple.
Parlons des hôpitaux. Vous voulez nous parler du dossier de l'hôpital de Hull? C'est quoi que vous voulez ajouter là-dessus, M. Fortin?
Ah ben, tantôt, on a demandé de la transparence là, de la part du gouvernement sur la question d'Hydro-Québec. Oui. Je pense qu'on a un enjeu de transparence à demander au gouvernement sur la planification des prochains hôpitaux. Et ça, j'inclus l'hôpital de l'Outaouais là-dedans. Là, parce que dans les documents budgétaires du gouvernement, on nous a dit qu'à peu près tous les hôpitaux qui étaient dans la phase en planification, puis il y en a beaucoup de ces hôpitaux-là au Québec, là, qui sont à reconstruire ou à rénover. Le nouvel hôpital de l'Outaouais en fait partie. Dans les documents budgétaires, on nous dit essentiellement, pas mal tous ces projets-là sont en suspens. On n'a pas d'argent pour financer la suite des études, des plans, etc. Donc, cette année, on ne mettra pas d'argent là-dedans. Mm-hmm. Le problème, c'est que pour l'hôpital de l'Outaouais, on entend M. Lacombe qui vient sur vos ondes puis il dit, non, nous, on procède comme d'habitude. Puis les autres députés dans d'autres régions disent à peu près la même chose. Alors, nous, cette semaine, on va demander au gouvernement d'avoir un échéancier, un plan, à savoir ce qui se passe dans chacun de ces hôpitaux-là, incluant le nouvel hôpital de l'Outaouais, parce que ça se peut pas que formellement à Québec, on dise dans les documents, on n'a pas d'argent pour ces projets-là, ça avance pas, puis qu'après ça, tous les députés de la CAQ vont dans leur région puis disent, non, ça s'applique pas à mon projet, ça continue. Alors, c'en est un enjeu où on va avoir besoin de la transparence, puis c'est interpeller le gouvernement là-dessus, on va le faire cette semaine, parce que je pense que ça a assez duré, là, les gens de la région sont en droit de savoir ce qui se passe avec le dossier du nouvel hôpital.
C'est pas d'aujourd'hui que je dis que là, il va falloir que M. Dubé, le Pas Santé Québec, puis un directeur de relations médias, ou encore l'autre directeur de relations médias, Mathieu Lacombe, viennent nous expliquer comment ça marche, qu'est-ce qui va se passer, ou à peu près, ou qu'ils nous disent des affaires, mais qu'on n'est pas trop sûr, on verra, parce que là, la dernière fois, c'était rendu en 2034-2035 l'ouverture de l'hôpital, selon M. Dubé. Et là, c'est encore ça, parce que, comme vous le dites, là, on apprend qu'il y a plein de projets qui tombent partout au Québec, dont Maisonneuve-Rosemont à Montréal. Ça, c'était attendu depuis mauditement longtemps.
Puis, notre hôpital ici, là, je vous le rappelle, quand François Legault l'a promis en 2018...
C'était en 5 ans.
Ça fait déjà 7 ans. C'était en 5 ans, puis il nous disait... On n'a pas besoin d'études, on le sait qu'on a des besoins en Outaouais, on est capable d'aller de l'avant rapidement, ça va être en service en 5 ans. Là, le 5 ans, il est déjà passé, ça en fait 7, puis on n'a toujours pas idée de ça va être quoi la date de début de construction ou la date d'ouverture de cet hôpital-là. Nous, on se pose des questions avec raison, puis il y a du monde dans toutes les autres régions du Québec qui se pose également des questions à juste titre aujourd'hui. Là. D'avoir de la clarté là-dedans, ce serait la moindre des choses aux citoyens, surtout les citoyens qui ont basé leur vote pour la coalition Avenir Québec sur ces promesses-là.
Bon. Dernière question, M. Fortin. Merci d'avoir accepté de nous parler premièrement pour ce matin, mais comment ça a été en fin de semaine, la course à la chefferie du Parti libéral du Québec? Là, il y avait le débat hier. Là, vous rangez derrière qui déjà? Là?
Oui, moi je suis un partisan de Charles Milliard dans cette course-là. Je pense que c'est probablement la personne qui incarne et le renouveau et le développement économique qui est la force du Parti libéral depuis toujours. Puis avoir allé le gouvernement de la CAQ ces jours-ci qui a investi dans Northvolt, dans Taiga, dans Flying Whales, dans un paquet de projets, disons, qui battent de l'aile là, également. Donc, je pense que ça nous ferait du bien de revenir à nos racines de développement économique. Donc, c'est pour ça que j'appuie M. Milliard et pour avoir écouté les débats en fin de semaine, je vous dirais que j'étais pas peu fier de mon candidat. Je trouve que c'est réellement démarqué, mais les gens de l'Outaouais vont avoir l'opportunité de juger. Il y a un débat en Outaouais la semaine prochaine pour parler entre autres des enjeux de Chine.
Merci beaucoup, M. Fortin. On va surveiller ça. Il paraît qu'en fin de semaine, c'était tous les candidats contre M. Rodriguez, d'après ce que je comprends.
Il y a un bilan à défendre, disons, M. Rodriguez. Mais je pense qu'il s'attendait également à ça. C'était pas une surprise pour personne.
Clairement. Merci beaucoup. J'espère que vous vous portez bien, puis au plaisir de se reparler.
C'est un plaisir. Merci, M. Langevin.
Merci beaucoup. Voilà pour les commentaires d'André Fortin, député du Pontiac. Je vais arrêter ça là. Je ne vais pas dire porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, parce que dans le cas qui nous occupe, c'est pas vraiment ça qui est son rôle. C'est les barrages, moi, que je retiens ce matin beaucoup. Il y a eu deux personnes qui sont venues sur nos ondes la semaine passée remettre en question beaucoup la gestion des barrages par Hydro-Québec. Une des choses qu'on a demandé, c'est les plans de gestion de chacun des barrages, est-ce qu'on peut les rendre publics? Et ils ne sont pas rendus publics. Fait comment on gère ça, ce barrage-là? Comment ça marche? C'est quoi le plan? Ils ne veulent pas le dire. En tout cas, pas trop. Puis oui, les gens de Hydro-Québec sont venus en onde, mais ça ne correspond pas, la version. Il y a comme, puis M. Fortin a raison, il y a comme un manque de transparence. Ça a l'air de rien, mais au bout du compte, si c'était votre maison qui est emportée par l'eau à chaque année ou pas, puis que vous apprenez que peut-être qu'on aurait pu faire des manœuvres différentes pour les sauver, ces maisons-là. Tout est dans tout. Fait que je comprends que pour les gens qui ne sont pas inondés, vous entendez ça, ça vous passe un mille par-dessus la tête. Moi, j'habite à Cantley, je ne vais jamais être inondé. Personnellement, ça ne me touche pas pantoute les inondations puis la rivière Gatineau par la rivière des Outaouais. Mais c'est préoccupant pour notre communauté, pour les gens qui habitent près des cours d'eau. D'avoir juste la vérité, c'est ça qu'on cherche. 7h44, on s'arrête là-dessus. Dans quelques instants, j'ai un petit éditorial pour vous. Manquez pas ça.